Nova.
Nova.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, on part à la dérive avec le chanteur Sofiane Saïdi. Le raï qu'on aime, le raï cool, funky, profond, blues, rock, mélancolique, c'est lui. C'est Sofiane Saïdi, il est notre ami.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
Sofiane m'a donné rendez-vous dans l'église Saint-Merry, à Paris. Il y avait du monde, des lumières bleues et roses, Rodolphe Burger à la guitare, Ruth Rosenthal en récitante et Mehdi Adab avec son oud. C'était une prière nocturne à l'amour et à la paix. Le Cantique des Cantiques de Mahmoud Darwish, revisité. À la dérive, avec Sofiane Saïdi, on déambule à l'envers, on commence le soir et on finit le lendemain matin. On regarde derrière et on entend l'histoire de l'Algérie qui se chante.
À la dérive, avec Aurélie Sfèze.
Chante sur les 5 mandats. La première, c'est passé, vous nous avez eu avec la destinée noire. La deuxième, vous avez montré votre jeu, ça s'est passé à la Casa del Moradia, la présidence. À la troisième, le pays s'est amoindri à cause des intérêts personnels. Et à la quatrième, la poupée est morte. C'est le président, la poupée. Bah oui. La cinquième arrive, vous l'avez faite entre vous. Mais nous, on a un passé qui est archivé par la voie de la liberté.
C'est beau, hein?
Ouais, c'est beau. C'est un peu mélancolique, c'est révolutionnaire, c'est poétique, c'est politique, ils sont trop forts. Et ils sont trop beaux. C'est la force d'être ensemble avec les femmes, tous les âges, toutes les conditions. C'est génial. Ils sont tellement contents là de chanter.
Sofiane, vous m'avez donné rendez-vous à l'église Saint-Merry.
Ouais.
Pourquoi?
Ben, je suis venu voir deux copains, Rodolphe Burger et Mehdi Adab. Bon, on arrive tout juste, donc on peut pas trop discuter. Mais tu vois l'ambiance, quoi. Ça résonne, ça va être chouette, je pense. Tu vois?
C'est le cantique des cantiques.
Carrément. Carrément de carrément.
C'est Mahmoud Darwish.
Mahmoud Darwish, ouais. Je sais pas ce que c'est encore, mais ça, je pense que ça va être bien. Comme...
Tu l'as jamais vu?
Non, jamais. Jamais.
Pourquoi m'as-tu abandonné?
Si tu ne le sais pas, toi, la plus belle des femmes, allez, sors, à la poursuite du petit bétail, emmène auprès des petites chèvres, tout près des maisons des bergers.
Cher Melech Bimsibo, Nirdi Nathan Recho,
il est quand même chelou ce Rodolphe. Mais t'as vu cette ambiance un peu... On est quand même dans une église. Enfin, je crois, on dirait qu'on est dans un autre temps, quoi. Tu vois?
C'est un temps suspendu.
Ah ouais, complètement. Complètement. En plus, je viens de me réveiller, tu vois. Pour moi, c'est le matin, alors qu'il est 8h du soir. Je t'assure, c'est un drôle de réveil pour moi. Franchement, c'est tout bleu, tu vois, tout bleu. Il y a une fumée comme ça. On dirait qu'il est au paradis, comme ça. Il est suspendu, quelque part. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de divin, bah, un truc comme ça, ça peut être divin, tu vois.
Aujourd'hui, les messes dans les églises, elles ont changé de physionomie. Hein.
Mais ça, c'est peut-être le futur. Ça, c'est nous, quoi. Le rock'n'roll, ça peut être sacré. Le raï, ça peut être sacré.
Qu'est-ce qui est sacré dans le raï?
Dans le raï, il faut dire les choses telles quelles. Il faut parler d'amour d'une façon directe. Il ne faut pas vraiment de métaphore. Il n'y a pas de métaphore dans le raï, quoi.
Il faut que ce soit franc.
Ouais, il faut que ça soit vraiment franc, quoi.
Il y a une honnêteté dans le sacré.
Exactement, exactement. Je sais pas, moi j'aime bien les gens par exemple qui font la fête, ils le font jusqu'au bout. Ça aussi c'est sacré. Moi j'ai grandi dans une famille musulmane, mais il n'y avait pas une pratique visible à la maison. Mon père c'était un sacré épicurien. J'ai souvent vu avec une bouteille d'eau rouge et souvent au fond Kaltoum ou de la musique marocaine.
On va s'asseoir sur le tombeau, je sais pas.
C'est flippant un peu par contre, ça me rassure pas trop.
On a le droit de s'asseoir dessus, non?
Ouais, non, mais je n'oserais pas.
Non, ça,
je sais
ça,
pas
ça,
ce qu'il y a en dessous.
Ouais, c'est vrai, on sait pas.
Peut-être un ampli basse enterré là-dedans, non.
Je suis noire et magnifique. Kéohale Kaidar, Kirot Shlomo, Al-Dirouni Shani Shachar. ששזפתני השמש, בני אמי נחרו בי, סמנוי, נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי. הגידה לי שאהבה נפשי, איך תראה, איך תרביץ בצהריים, סלמה, אהיה כרותיה על עדרי חבריך.
Il y a Ruth Rosenthal qui récite, et elle récite en hébreu.
Ouais, ça m'a interpellé tout de suite parce que, vu que l'arabe, il est sa racine, il a une racine hébreu aussi. Ouais. Moi, j'ai tendu l'oreille parce que je me suis dit, ah, mais en fait, c'est de l'arabe, mais non. Et c'est inimaginable, c'est dans une...
Une église chrétienne.
Ouais, c'est ça.
Avec des textes de Mahmoud Darwish,
exactement.
Palestinien.
Exactement.
Chanté par une juive qui chante en hébreu.
Ouais. Ouais, c'est ça aussi, tu vois, on parlait tout à l'heure du futur, de peut-être notre futur nos messes, on peut les imaginer comme ça plus tard, on peut imaginer ce genre de messe comme ça, où on peut se permettre d'être dans une église et parler en arabe, ou faire du raï avec du rock'n'roll, entendre de l'hébreu, c'est une sorte d'idéal.
Et la musique permet ça ?
Bah ouais, la musique elle sauve les humains en fait. Enfin je sais pas, la personne qui nous écoute là à l'heure actuelle... Combien de fois dans sa vie la musique l'a sauvé? Il devrait juste se poser cette question. Combien de fois la musique m'a sauvé?
Et vous? Elle vous a sauvé de quoi?
Je sais pas, la musique elle m'a sauvé de... Bah, par exemple, c'est grâce à elle que j'ai pu quitter aussi l'Algérie. J'ai pu survivre en France. Elle m'a peut-être sauvé de... des situations peut-être où j'aurais pu être victime du terrorisme, par exemple. Puis elle m'a donné un statut dans la vie, en fait. Et mis à part ça, même quand j'étais petit, elle m'a sauvé plein de fois. Je me suis réfugié dedans, c'est un refuge. Dans chaque coin de la terre, il y a des gens qui se soignent avec la musique, quoi. Ils soignent leurs douleurs. Je sais pas, moi, quand j'ai la mélancolie, c'est un des premiers trucs que je fais, c'est d'écouter de la musique, quoi. Et là, en plus, on dirait qu'on est dimanche, mais on n'est pas dimanche. Enfin, tu vois.
L'église, elle est bondée.
Ah ouais.
De gens de tous âges.
Ah ouais, ouais. Et puis ils sont tous sages comme ça. Nous on a l'air de comment ça s'appelle, de Chenapan, non?
Chenapan.
Et c'est vraiment cool qu'on soit retrouvés ici. Vraiment,
ouais, en fait, c'est la première fois que je commence une dérive en plein concert la nuit.
Ouais, en fait, on a inversé le temps.
C'est ça.
Ça aurait pu commencer le matin et finir... Là, c'est l'inverse.
C'est une dérive à l'envers.
Exactement.
C'est une rive D.
Je te jure. Mais c'est une vraie dérive. Dans le sens où une dérive, c'est ça en fait.
Et Mahmoud Darwish, vous connaissiez ses poèmes?
Un petit peu, peut-être qu'il fait partie des gens qui m'ont donné envie de lire des poèmes, de lire des livres en arabe et tout, quoi.
Fille de Jérusalem, ne réveille pas amour avant envie.
Des jardins, ceux qui t'entourent font très attention à ta voix, fais-la-moi entendre.
Allez, disparais mon amour, mais le chalet svi ou le renfera y aller à l'arrêt.
C'est fini.
Ouais,
c'était beau.
C'était vraiment beau. Franchement, moi, je suis sur une couleur comme ça. Je suis suspendu. Et là, ça range et tout ça. Là, ça, ils sont en train de ranger. Mais à part il y a un disque de ce truc-là, moi je ne connaissais pas. Je sais qu'il y avait Bachung.
Bachung au
ouais,
départ.
C'est ça.
Qui avait fait le Cantique des Cantiques, ouais. Et c'est Rodolphe Burger qui reprend.
C'est dingue, hein. C'est dingue. Ah tiens, il est là. Il est là, lui, là. Lui, c'est Mehdi.
C'est là.
Ouais, voilà.
Alors là,
tu vois, il a un petit, une petite tisane. Hein.
Oh, c'est en cachette, bien sûr.
Comment ça me fait plaisir de vous voir. Comment je vous aime en pagaille.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre verre, Mehdi?
Alors, c'est un petit mélange dont tout ça est sous la bénédiction des grands producteurs de whisky écossais.
Ouais. Amen.
Amen. Qui vraiment.
On va pas y arriver à faire ça.
Le troisième, c'était
Rodolphe qui arrive.
C'est excellent.
Mais là, vous êtes avec les deux diables.
Ouais, voilà, dans une église, c'est pas mal. Mais bon, une église un peu chelou, hein. Il paraît que ici c'était un peu genre ambiance alchimie et tout.
Ah ouais,
ouais. Il y a plein de signes, machin.
Havaï Nova.
Havaï Nova.
Ce whisky s'appelle Havaï Nova. Ils se sont dit, tiens, Nova c'est cool, un peu de Kabyle Havaï Nova, ça marche, allez, on fait un mélange, ça marche.
Goûte, hein, je ne suis pas responsable de ce qui se passera après.
Tu vois, c'est une dérive qui commence plutôt en dérive.
Non, mais ça va être n'importe
c'est
quoi.
C'est une virdée.
La dérive à l'envers.
Ouais, bah, sinon c'est la Zermi. Non, mais on est des créatifs, nous, il faut nous engager. Nous, on fait des émissions, on invente des slogans, des trucs.
N'empêche, tous les deux, Ekel et Jekel, là, à Nova,
on
va faire une super émission.
Mais direct, quoi, mais vas-y, quoi. Mehdi 1, c'était la radio Méditerranée, tu connais pas Mehdi 1 cultissime. C'était la radio qui nous balançait les super morceaux.
Le premier titre de Rai que j'ai entendu à la radio, c'était à midi.
Et c'était quoi le premier titre de Rai?
Hana hana, ou mal habibiti ma jach, ou hana hana, ou sibar douaya. C'était un morceau de Khaled, un vieux morceau, produit par Rachid Baba Ahmed.
Bah ça, il faut le mettre grave. Et en plus, Rachid Baba Ahmed, super prod à l'ancienne, quoi. À l'ancienne.
De langue, l'ouverture sur le monde. Midi 1.
Nova. Quittons cet endroit. Donc là, on est à côté de Beaubourg.
Ouais.
Il faut quand même guider nos auditeurs.
Ouais. Aurélie, on fait ce quartier-là. Quand je suis arrivé à Paris début 90,
ouais.
J'allais vachement vers par là, là, dans ce quartier. J'allais aussi à Centre Pompidou. Et je me souviens, vraiment, c'est mon premier contact avec les, on va dire, les modes de rue. En fait, il y avait énormément, début 90, il y avait énormément. C'était comme un défilé de mode dans la rue. Je voyais toutes les nouvelles modes. En tout cas, j'ai, par exemple, des punks, je n'avais jamais vu de ma vie, tu vois. Des gothiques, par exemple, les Ardos me faisaient peur. Je croyais que c'était des méchants, tu vois. Vraiment, j'avais peur de...
Mais ce sont des méchants.
Ouais. Vraiment, j'avais peur, tu vois, quand je voyais avec les crânes, avec les têtes de mort, les t-shirts et tout. Enfin, je changeais de trottoir, j'avais peur. Je me suis dit, ils doivent être méchants et violents.
Ils vont m'attaquer.
Ouais, ils vont m'attaquer, peut-être.
Et vous êtes arrivé à Paris, vous aviez quel âge?
17 ans. J'arrivais de Sidi Belabès.
Ouais, de Sidi Belabès, direct.
Ouais, ouais, ouais.
Après les années 90, après les années noires.
Juste avant.
Pourquoi vous avez senti que ça sentait pas
ouais,
bon?
Ouais, ça sentait vraiment. Il y avait une drôle d'ambiance. Grosse émeute et tout ça. Ou... Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont été emprisonnés. Moi, j'ai été emprisonné moi-même pendant une semaine. Parce que j'ai couru avec les gamins. Nous, on était à politique. Enfin, on connaissait même pas la politique. On était juste content de voir qu'il y avait un soulèvement populaire. Mais la police, ils n'ont pas aimé. Quoi. Du coup, ils nous ont tous arrêtés. Et du coup, moi, ça m'a quand même beaucoup marqué, cette période-là. L'ambiance est devenue de plus en plus...
Étouffante.
Ouais, oppressante et tout. Et puis on commençait à avoir les premiers signes, les barbus, tout ça et tout. Et est-ce que tu sais...
Non, c'est pas par là.
Ouais, c'est pas
par
là.
On les a perdus.
Ouais, je crois. Attends, on va essayer. Naturellement, il fallait partir. De toute façon, je me rappelle ma dernière nuit en Algérie. Je savais que je partais pour un moment, mais quand est-ce que j'allais revenir, je savais pas. Et j'ai mis 10 ans à revenir, quoi. D'ailleurs, là, tu vois, il y a le centre Pompidou. Je venais souvent ici, quoi. J'étais étonné comme ça de voir toutes ces modes, tous ces looks, tout ça. Moi, c'est, pour moi, là, ici, là, c'est vraiment mon premier rapport à la France, à Paris. Je pense que le coup de foudre a commencé vraiment ici, dans ce coin-là, quoi. C'est assez marrant qu'on voit ça, quoi.
Enfin, c'est beau, là, de voir Beaubourg la nuit, comme ça.
Ouais, franchement, c'est quelque chose, quoi. Vraiment, de voir ça maintenant, là, c'est quelque chose pour moi. J'ai trouvé des copains, en fait, que j'ai retrouvés pas très loin d'ici, qui m'ont branché sur un cabaret. Parce qu'il faut savoir que cette période, il y a eu beaucoup d'exilés, en fait, beaucoup de gens qui ont quitté l'Algérie à cette période-là. Du coup, on retrouvait des têtes qu'on voyait en Algérie, et puis ça pouvait être... ça pouvait être des gays, des travestis, des danseuses, des gens qui aiment la nuit, mais des instits, beaucoup d'intellectuels. Enfin, c'était toute une ambiance comme ça. Tout ce beau monde a trouvé refuge à Paris. Peu à peu, on a recréé une ambiance ici à Paris. Des fois, il y a des moments où on avait l'impression d'être à Oran, quoi. Quand on se retrouvait tous dans un cabaret ou quoi, on avait l'impression d'être à Oran. Voilà, c'était quelques années comme ça. Intéressante et en même temps difficile pour moi. T'es un gamin encore. Hein, et
t'es plus chez toi.
T'es plus chez toi, t'es plus dans le cocon familial. Il faut éviter les dangers, il faut éviter... c'était quand même un milieu un peu mafieux quand même. C'était pas... Je me souviens qu'il y avait une génération de branchés, comme on pouvait trouver aujourd'hui, qui suivaient le rail. Des gens qui allaient au bain de douche, qui allaient au palace et tout. Par curiosité, ils venaient là dans les cabarets. Mais de temps en temps, on avait... Tiens, on avait 3-4 drag queens qui débarquaient comme ça dans le cabaret du rail. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé à aller au Pulp, par exemple. Je ne connaissais absolument pas ce genre d'ambiance et tout.
C'était la boîte lesbienne.
Exactement. J'aimais bien quoi, le contraste avec le cabaret. Quoi. Donc là, on est en train de rentrer dans...
On rentre dans la maison de la poésie.
Dans la poésie. Bon, là, c'est du sérieux un peu. Ça a l'air sérieux un peu.
Oh, ça va pas très, très sérieux non plus.
C'est ouf. Tu vois, c'est ouf.
Bon. En tout cas, ça va se passer là.
Ça va se passer là, mais je sais pas si... Salut. Je sais pas s'ils sont arrivés. Non.
Je sais pas, on va aller voir là-bas. Hein. Ah. Je sais pas, moi, je vous suis. Hein. Je suis timide, hein, d'un coup. Hein.
Écoute, bah, on y va, on essaie de...
Frayer.
Ah, si, si, là, je vois des têtes. Salut. Ça va? Ça va, très bien.
Okay. Faut aller par où ?
On va essayer alors.
On va où ? On va en bas ?
Ouais.
Olivier, le directeur de la Maison de la Poésie, il va nous emmener dans la bibliothèque.
Exactement, il va nous emmener dans la bibliothèque. Paraît-il, c'est super. Il y a Mehdi qui va nous accompagner.
Olivier, où est-ce qu'on va ? Vous êtes le directeur de la Maison de la Popo.
Oui, alors dans la...
On appelle ça la Maison de la Popo chez nous.
Ah bon ? Ah, je n'étais pas au courant, mais c'est toujours intéressant d'apprendre des trucs. On va dans la bibliothèque cachée qui est au sous-sol, à côté de la petite salle de la Maison de la Poésie, la salle Lautréamont, et à côté aussi du studio d'Arthur H., son studio de création, qui a été aussi celui de Rodolphe Burger. C'était le studio de Rodolphe pendant 2 ans, et puis ensuite Arthur l'a investi. Voilà, donc on est dans nos sous-sols très fertiles.
On descend un escalier mystérieux.
Ça mène à la salle Lautréamont, donc il est normal que ce soit un tout petit peu mystérieux quand même. Voilà, donc on va ouvrir cette porte. Et là, on arrive derrière, c'est la bibliothèque.
C'est génial.
C'est beau. Ah oui.
C'est trop beau.
Ah oui, c'est
un endroit caché, mystérieux. Tous les livres qu'on nous adresse sont ici.
Qui vous offre les livres ? Tout le monde ?
Les éditeurs, les auteurs, oui, parce qu'ils ont envie que la Maison de la Poésie puisse avoir ces livres-là. Alors, certains ont envie d'être invités pour des lectures, pour des performances, etc. Et puis, d'autres éditeurs, plus largement, nous envoient les textes pour que ça reste dans cette bibliothèque. Après, ce n'est pas une bibliothèque ouverte au public parce qu'on n'en a pas les moyens, on n'a pas de bibliothécaire, mais c'est un lieu physique, bibliothèque, qui nous permet, dans cette salle un peu cachée et assez belle quand même, puisque là, les gens ne la voient pas, mais on peut dire qu'elle est assez belle.
Elle est très très belle.
Elle a un charme. C'est un très beau lieu pour préparer une lecture, se rencontrer, enregistrer quelque chose. Le son est très mat dans cet endroit-là. Et c'est pour ça que c'est précieux aussi. Il se passe toutes sortes de choses.
C'est voilà. Hyper chaleureux, il y a des tapis,
des bibliothèques
en bois, table en bois.
Des livres partout, évidemment.
Des gros fauteuils molletonnés.
Voilà. Un peu défoncé pour certains, méfiez-vous.
Ça ressemble vraiment, on peut imaginer que cette pièce pourrait servir à une réunion à huis clos.
Clandestine.
Ça ressemble à ça.
C'est vrai que ça peut faire un peu endroit de résistance. C'est-à-dire si on devait se retrouver avec un groupe de résistants clandestins, on pourrait se retrouver ici.
C'est assez romantique, oui.
Parce que nous, on est des romantiques.
On part sur quelque chose, oui. Ok, d'accord.
On pourrait monter une société secrète ici.
Absolument. Alors voilà, on peut penser à ces Sud-Américains, Borges, Sabato, etc., qui créeraient un club très fort de littérature qui viserait à renverser le monde tel qu'il est par la littérature.
Ouais, okay.
Peut-être on peut penser à ça. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot.
La société de résistance littéraire, la SRL.
Ah, ça sonne. Ça sonne un peu années 70, ouais, mais ça sonne.
Nous, on a les 70 aussi.
Ok, d'accord.
Mais grave, la SRL.
La SRL.
Je vais monter une SRL, en fait. Société de résistance littéraire.
Cueille dès maintenant les fleurs de la vie. En latin, on l'exprimait comme ceci. Carpe diem. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, au moi, ô la vie.
Vous revenez d'Algérie, Sofiane ?
Ouais.
Vous revenez d'Alger, quoi.
Ouais. Bah, écoute, j'étais à Alger, j'ai senti vraiment...
Qu'est-ce que vous avez senti, ouais.
Bah, déjà, il y a un changement. Bon, ça fait, pour rappeler aux gens, ça fait 38 vendredis que le peuple sort dans la rue. Pas un carreau de cassé, rien. Ils ont compris que ce gouvernement, ce système, il veut tout faire pour garder le pouvoir, mais il n'y arrive pas. Donc, ils ne veulent pas faire d'erreur. Le peuple ne veut pas faire d'erreur. Quand on lui sort la carte du « attention, les années de plomb, attention », non, ça ne marche pas avec nous.
Il y a un truc qui m'a frappé,
tiens,
on y était il n'y a pas longtemps, là, et y avait une manif qui se préparait et tout ça, tu vois, là, je voyais qu'il y avait tous les camions de flics, un peu l'intimidation, style CRS, manif et compagnie, tu vois. Mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'en fait, quand tu passes comme ça, tu te rends compte que les gens sont...
Les flics,
voilà. Ils sont hyper proches du peuple. Ils sont habillés un peu en Robocop, mais pas trop non plus, tu vois. Il y a un gamin qui veut traverser, une bagnole qui arrive, le mec, il fait la bagnole, il dit au gamin, vas-y, traverse. En fait, non, ils sont pas inquiets et c'est hyper cool, en fait.
En fait, c'est eux-mêmes, ils en ont marre.
Ce que je veux dire, c'est qu'eux-mêmes, ils sont... Comme tout le monde. Tout le monde est pareil.
Ils sont solidaires.
En fin de compte,
ouais.
Ils sont solidaires. T'as pas l'impression que c'est pareil partout ? Je veux dire que ça se passe exactement au Chili, c'est exactement ce qui vient de se passer. Ça se passe à Beyrouth, ça se passe...
Moi, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est le chant, la révolution en chantant.
Là. Ouais, les Moradia, là, les Casa del Moradia.
Les chants de supporters.
Ouais.
C'est quand même des révoltes qui se chantent. Tu parlais du Chili ou du Liban. On chante dans ces rassemblements.
Moi, il y a deux semaines de ça, j'ai reçu une vidéo, franchement, je l'ai reçue vers 2h du matin. C'est une place au Liban, blanc de monde, je sais pas, il y avait combien de milliers de personnes, ils dansaient tous sur Hafla, tout ce morceau que j'ai fait avec Assidara. C'est comme à une lueur comme ça du soir, à 2h du matin, avant de me coucher, J'entends ce truc, ah, ça m'a mis une patate, mais vraiment, tu sais, j'ai quitté le lit, je me suis levé, je me suis mis un disque, tu vois. Si la musique pouvait, enfin, ce qu'on fait, des fois, on ne sait pas vers quoi ça va, à quoi ça sert vraiment, quoi. Même si on, voilà, moi, j'ai jamais fait des textes politiques et tout ça, déjà, de faire de la musique, nous, on donne du bonheur et pas ça, tu vois ce que je veux dire.
La dérive, Maïa Sofiane Saïdi, wa Aurélie Sfez, Fikanet, Radio Nova.
Ya Fatma, Betteljaro, Dérive, Zia, Mohalla, Nessia, Krani, Kouli, Zada, Ali, Elham, Mohamadia, Kindir, Choufak, Raki, Touli. Ya Mama, Ya Mama, Chatra, Kif, Khajat, Hwas, Lodouyat. Ya Mama, Ya Mama, Chatra, Kif, Khajat, Hwas, Lodouyat. Ya Fatma, Betteljaro, Dérive, Zia, حنا نسي اكراني كولي زاد عليا الهم والحماديه كي ندير نشوفك راكي طولي يا ماما ويا ماما شاطرة غي في الخرجات حواس اللطويات يا ماما ويا ماما شاطرة غي في الخرجات حواس اللطويات
La dérive avec Aurélie Sfez.
Et avec Sofiane Saïdi, on a continué notre dérive dans la très jolie bibliothèque de la Maison de la Poésie. Olivier Chaudançon, le directeur, nous a laissé et on est restés tous les trois, Mehdi Adab, Sofiane Saïdi et moi. À la Maison de la Poésie, on est comme à la maison. On joue de la musique et on rigole. On ne vous racontera pas la suite, mais la nuit a été longue. Le lendemain, rue Sidi Ibrahim, dans le 12e, c'est dans l'appart de Sofiane qu'on se retrouve pour un café en guise de remède. Pour finir où ? Sur un ring de boxe à l'autre bout de Paris. À la dérive, ça continue avec deux diables, Sofiane et Mehdi, Rye and Blues. Qu'est-ce que vous m'avez dit, Sofiane, sur ce hood qui datait de...
Bah, c'est Mehdi, quel hein. siècle c'est Mehdi. Non, c'est Mehdi qui m'a dit... Tu m'as dit quoi tout à l'heure ? Tu m'as dit les années 40 ?
Ouais, années 40, Syrie. Je jouais dans un bar turc avec un ami. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient avec ce oud. Et puis il le sort. Et puis je dis, je peux l'essayer. Je l'essaye et je me dis, j'ai jamais... Enfin, comme si j'avais rencontré le oud de ma vie. Et puis le mec l'a repris et il est parti. Et puis un jour, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 ans après, un copain m'appelle et il me dit, tu te rappelles le oud que tu as joué ce jour-là dans ce bar ? J'ai dit, ouais. Il me dit, ben écoute, en fait, moi, je l'ai acheté au mec et je le vends aujourd'hui. Et je l'ai acheté.
Il vous attendait ?
C'est un oud que j'ai rencontré dans un bar.
Je chante ou je parle ?
Il est chaud, là, il veut que tu chantes.
ما نوليش معاك ما نوليش معاك وين نروح نخمم فيك وين نروح نخمم فيك ما نوليش ما نوليش ما نوليش معاك Yes. Alors là, évidemment, c'était une impro. Je sais absolument pas. Mais c'est une impro. En gros, je disais, je ne reviendrai jamais, jamais, jamais avec toi, même si je passe mon temps à penser à toi.
Un genre de blues, quoi.
Exactement.
Ryan Blues,
quoi. Les textes, tu vois, les trucs. Ouais, je t'avais parlé de. Tu vois, le
blues, l'époque où il est né, le blues et le rail, ils sont nés à peu près à la même époque et dans les mêmes conditions, pratiquement. C'est-à-dire l'Algérie, c'était la colonisation, l'oppression, mais aussi le poids de la culture, du regard, de la religion et tout
même
ça.
Même musicalement, ces petits motifs répétitifs comme ça.
Oui.
Toi, ta voix, rock, cette espèce
moi,
de...
Mon oud, rock.
Ton oud, rock.
Rock et rock.
On quitte la bibliothèque. C'était bien, ce petit truc, hein.
On va le travailler.
Petit truc un peu, mais même un peu malien, quoi.
Exact.
Non, mais on est resté dans la bibliothèque des heures.
Vous écoutez À la dérive avec moi-même, Sofiane Saïdi et Aurélie Sfez sur Radio Nova.
ومالها مالها وعارضتني في الليل تبكي لي على الزهر مالها نكوي قلبي وحدي وانا لم نشكي وموالفه وصابره قالوا عليها مريولة من خوف حزامي عديان نكوي قلبي وحدي وانا لم نشكي
Le lendemain matin, Sofiane Saïdi me donne rendez-vous au 1 rue Sidi Ibrahim, dans le 12e. Rue Sidi Ibrahim, c'est rigolo.
Ouais, Aurélie ?
Ouais, c'est quel étage ?
4e, t'es rentrée quand même ?
Ouais, je suis rentrée.
4e.
Ok. Salut.
Ça va ?
Ouais. Il y a un truc que je trouve rigolo, Sofiane.
Ouais.
C'est que vous habitez rue Sidi Ibrahim.
Ouais.
C'est exprès.
Ouais. Quand je suis arrivé ici et que j'ai vu l'adresse, je me suis dit non, mais c'est une évidence, quoi. Je vais habiter ici, tu vois.
Parce que c'est quand même une région qui est juste à côté de Sidi Bel Abbès. Enfin, c'est dans le même coin.
Ouais, exactement.
Au nord de l'Algérie.
Exactement. C'est une région aussi fond du vin. C'est genre à 10-15 km de Sidi Bel Abbès, quoi.
On est chez vous.
Bienvenue, alors.
Je suis en train de faire un café. Un petit café. C'est gentil chez vous, hein.
Ouais, c'est cool, hein.
C'est mignon, hein.
Ouais. Alors, là-bas, c'est notre chambre. Là, il y a le salon. Et là...
Là, c'est le studio.
Ouais, c'est là où je compose, où les premières idées, tout ça arrive, ici.
Quand vous composez avec ouais, l'aide de ce petit clavier-là.
Ouais, là, j'ai des petits claviers ici. J'en ai un autre un peu plus analogique, là. Mais la plupart du temps, les morceaux, je les fais rejouer derrière. Enfin, je crois vachement aussi à la musique live, quoi. Moi, je ne suis pas vraiment un clavier, je ne suis pas vraiment un pianiste.
Parce que vous êtes vraiment un chanteur aussi. Quoi. Ouais, voilà, pas un votre instrument, c'est la voix.
Ouais, carrément. Moi, c'est la voix. C'est...
Et vous regrettez pas de ne pas savoir jouer d'un instrument en plus? C'est un regret ou pas?
Bon, ça va, j'arrive à m'accompagner un peu comme les Pakistanais qui font du... Comment on appelle ça? Le qawwali. Comme l'harmonium, quoi, j'arrive à m'accompagner. Après, évidemment, je regrette de ne pas avoir fait vraiment du piano, par exemple, ou de ne pas savoir absolument jouer la guitare. Tu vois, j'adore la guitare, mais je ne sais pas jouer de ça. Des fois, je regrette, mais bon, en même temps, je suis déjà content de ce que j'ai, quoi.
Derrière vous, il y a un drôle de tapis,
ouais,
et une grande photo.
Ce tapis-là, c'est ma grand-mère qui l'a fait.
Elle l'a tissé?
Ouais, elle l'a tissé. Bon, ma grand-mère, elle est décédée en 87. C'était une perte très difficile pour moi. J'étais adolescent. Ce tapis, en fait, tu remarqueras, tu vois, il y a du jean, il y a des... Et là, il y a des vêtements que même j'ai portés quand j'étais petit, que ma sœur a portés. Ça s'appelle Shalmato, ce modèle-là. Et en fait, les vêtements qui sont usés, elle passait un temps fou à les découper et à faire des pelotes.
Hein, ouais, on peut appeler ça, ouais, des pelotes, ouais.
Ouais, et à la fin, elle fait des pelotes et elle les amène chez un monsieur qui tisse à la fin le tapis.
Des bouts de fringues,
bah, des bouts de fringues qu'on a portés, en fait. Moi, je retrouve certaines choses ici que j'ai portées.
C'est comme une relique, un peu, ce tapis.
Exactement. Et puis, c'est notre histoire, en fait. Là-dedans, il y a mon histoire qui est là-dedans, un peu.
Il y a les habits de la famille. Exactement. Il y a les habits de tout le monde.
Ouais, exactement. J'adore ce tapis. Il y a une cohérence,
dégradé,
après.
Ouais, ouais.
Il y a une espèce de cohérence, comme ça. De...
C'est une œuvre d'art, quoi.
Moi, je trouve aussi, quoi. Ça accompagne bien Farid al-Atrash. Là, il y a le portrait de Farid al-Atrash. C'est un chanteur qui était druze, qui a quitté le Liban, ou la Syrie, je crois, pour aller en Égypte, et c'était une grande star en Égypte, et même dans le monde arabe. Il était adoré, ce monsieur-là, quoi. Il était, il fait partie, c'est comme Om Kalsoum, comme Abdel Halim Hafez, il fait partie des piliers de la musique arabe, ou, tu vois, au Moyen-Oriental, quoi.
Il a l'air très sérieux, il regarde sur le côté, comme ça.
Ouais, mais trop beau, quoi. Moi, quand j'étais petit, sa voix, elle m'a beaucoup inspiré, quoi. Il a une voix assez grave, comme ça, assez rock, comme ça. Très gamin, je suis tombé amoureux de sa voix, vraiment.
Et le fait de l'avoir à côté de vous pendant que vous travaillez, c'est comme si vous regardez en disant « Sofiane, faut que t'assures ».
Ouais, puis ce tableau-là, je l'ai ramené du Caire, quoi. Il est là, c'est comme un membre de ma famille, en fait. Faute de... J'ai pas mis de portrait de ma famille ici.
Il n'y a pas vos parents?
Non. Comme dans le salon, j'ai un portrait de Fairouz. J'ai des gens, ils font partie de ma famille, ils font partie de ma vie, quoi.
La bouteille de whisky dans la carafe?
Bon, elle est là, je ne sais pas pourquoi elle est là, en fait.
C'est très Dallas, quoi.
Exactement, ouais.
J'adore
J'adore ces bouteilles-là, parce que, tu vois, dans les Dallas, même dans Colombo et tout, et j'ai cherché longtemps ce genre de bouteilles dans les brocantes et tout, et j'en ai deux, trois ici. Quand je travaille, je me fais un petit verre, ou alors quand je reçois
quelqu'un. Pour la voix aussi.
C'est très bien, quoi, parce que ça chauffe réellement la voix. On prend une petite gorgée, c'est parti.
On va prendre le café?
Ouais, carrément.
Quand vous étiez petit, vous chantiez quand même beaucoup. Et votre oncle aussi.
Ouais.
Vous envoyez des vinyles, non?
Ouais, en fait, mon oncle, qui est parti dans les années 60, est parti en Californie, dans les années Woodstock, hippie, tout ça, quoi. Tu vois, j'imagine le mec qui quitte l'Algérie, il était parti en Suède, parce qu'il était là dans les années 60, et quand il y a eu le... Octobre 61, qu'on a jeté quand même des Algériens dans la Seine, lui, il était là, en fait. Du coup, je pense qu'il était vraiment traumatisé, quoi. Bon, bref, il est parti en Californie, et du coup, mon oncle des États-Unis envoyait des vinyles, genre des cartons avec plein d'objets pour la famille, mais dedans, il y avait toujours des vinyles.
Et il y avait quoi, par exemple, genre Pink Floyd
Ouais, carrément, il y avait Pink Floyd, il y avait genre Led Zeppelin, ouais. il y avait Santana, et à chaque fois, j'étais impatient de découvrir ce qu'il y avait dans ce carton.
Et donc double culture musicale avec le père qui écoute plutôt chez Harry Mitty.
Et il aimait bien aussi Oum Kalthoum. C'était pas trop son truc, le rail. Alors qu'il vivait vraiment, le blues du rail, quoi. Tu vois, il était profondément rail, mon père, tu vois. À l'ouest d'Algérie, je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui ont fait que le rail est bien né là, en fait. Il y avait les vignes, il y avait aussi la mer, il y avait la pêche. Et les vignes, souvent, ils sont espagnols. Et donc, en fait, il y avait cette influence à la fois des Espagnols. Il y avait aussi l'influence, par exemple, au débarquement en 42. Il y a eu les Américains qui sont arrivés dans les bagages avec de la musique de l'Amérique latine. Et par exemple, un mec comme Maurice El Medioni, il a entendu le cha-cha, le mambo et tout. Il était hyper... il a adoré ce son-là. Et c'est un enfant d'Oran, Maurice El Medioni, qui est d'une famille juive oranaise. Et du coup, lui, il a commencé à jouer du piano. Il a adapté la bossa nova au rail. Ça s'appelait pas encore le rail, mais un style oranais, mais avec des touches latino. Et du coup,
bossa no rail.
Ouais, voilà. Il y avait ça. L'accordéon, par exemple, c'était l'influence de la Java. Et après, il y a tout le côté blues qui est arrivé. Lui, il était déjà là, en fait, le proto-rail.
Sofiane Saïdi, quand est-ce que vous vous êtes dit « Moi, j'ai une voix et plus tard, je serai chanteur » Est-ce qu'à un moment donné, dans l'enfance, on se dit ça?
En fait, quand j'étais gamin, c'est bizarre parce que je savais que je pouvais chanter, mais c'était comme un secret. Et au fur et à mesure, à l'école et tout, j'ai commencé un peu à chanter à mes copines de classe. C'était aussi un moyen de séduction, je crois, hein, parce que c'était mon seul truc. Je faisais rire. Mais je chantais aussi, quoi. Des fois, quand j'arrivais à l'école un peu en retard, je demandais aux surveillantes un billet d'entrée, un billet d'excuse, mais j'avais pas d'excuse. Elles me disaient « Ok, mais chante-nous alors une chanson. » Donc, je chantais une petite chanson et j'avais un billet d'excuse, tu vois.
Et ça marche encore aujourd'hui ?
Bah, aujourd'hui, tu vois, la chanson, elle me permet de voyager. Pour moi, c'est devenu un passeport. Enfin, c'est quelque chose
qui... Un ticket d'entrée, quoi.
À partout, quoi. Exactement, c'est un billet d'entrée et un billet d'excuse. D'aller partout. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, j'aurais jamais rencontré si j'étais pas chanteur, quoi. Pendant des années, beaucoup de monde me disait « Tu devrais chanter en français et tout. » Et je sais que j'ai pas voulu le faire dans les années 90, là où pratiquement tous les chanteurs de rail, ils ont chanté en français. Déjà, je me sentais pas concerné par le rail.
Le rail francisé, enfin ce
ouais,
rail
commercialisé.
1, 2, 3 soleil.
Ouais, puis plus tard, c'était un rail ghettoisé, tu vois, avec le.
L'autotune et tout ça.
Ouais, le rail R&B et tout ça, quoi. Ça me parlait pas, en fait, ça me plaisait pas. Mais par contre, il y a un mec, je sais pas, j'aimais beaucoup comment il écrivait, c'était Miossec. Et du coup, on a commencé, je suis parti donc le voir chez lui, à la maison.
À Brest.
Et je t'avoue qu'il y a un truc qui m'a marqué quand je suis allé le voir. Souvent, je me mettais à un endroit, à la terrasse, et je regardais la mer. Et je pense que ça va te parler, et je pense que même les gens de Nova, ça va leur parler. En fait, il m'a dit, tu sais, Rémi, il est décédé à cet endroit-là, tu vois.
Rémi Kolpakopoulos.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a hyper touché, quoi, en fait, cet endroit-là. Et du coup, tous les matins, pendant mon séjour, j'allais m'asseoir à cet endroit et je regardais un peu la mer. On pouvait sentir sa présence, en fait. Finalement, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est une famille, tout
c'est
ça,
famille,
en fait. Ouais. Ouais, c'est une famille, quoi.
Et puis, les radios, je pense qu'il y a une vraie fraternité entre certaines musiques et certaines radios.
Exactement. Et je dirais même là, puisqu'on parle des absents, je suis en fait, il y a quelques années que, par exemple, Khaled, quand il est arrivé en France, était tout jeune et tout. Il y a un mec qui est quand même parti le chercher à un moment à son hôtel. C'était Rachid. Il est parti voir Khaled. Il lui a dit « Bon, écoute, je vais te montrer un peu Paris, comment c'est et tout. » Et la première chose qu'il a fait, il l'a amené chez Nova. Et donc, en fait, la première radio qui a joué du rail en France, c'était Nova, en fait. Et moi, quand je pense aux absents, je ne suis pas triste parce que j'imagine juste qu'ils sont dans un autre monde, peut-être moins violent que le nôtre. En fait, s'il y a une vie après ça, c'est, moi, je l'imagine douce, tranquille. Ils ont donné du bonheur aux gens et tout. Tu vois, ce n'était pas des tyrans.
Moi, je pense qu'il y a une place à part pour les musiciens.
Exactement.
Nova. On va. On y va ? On doit rejoindre une copine à vous.
Ouais, exactement. On va rejoindre Aurore Vinou, qui est photographe et qui fait une exposition sur la boxe dans une salle de boxe thaï. Et du coup, on va aller la retrouver. On va voir un peu ce qu'elle a fait. Ouais, on va en voiture, ouais.
Quand tu es rebeu
en France ou à Paris et que tu conduis, tu dois toujours avoir tes papiers sur toi parce que tu as une chance, tu as plus de chance en fait de te faire contrôler que les autres. Donc, bon, avec le temps, avec l'âge, on fait de moins en moins attention à moi, mais quand même, il y a toujours cette peur. Bon, bah c'est bon, on est parti.
خليتو البلاد بط الباقي لوني غنيات فيني توما سلعة وحدة ماكوش فاهمين تكذبو بالقلب تلعبو غير هذي توما فيها شاطرين لشبة تخوفكم هزين يعميكم غاديكم الثقافة يا وين غادين منتو ما درتو في حسابكم بغلصو.
Vous êtes à la dérive, vous, Sofiane Saïdi ?
À la dérive dans quel sens ?
Je sais pas, à la dérive dans la vie.
La dérive, moi, ça m'évoque comme si tu es dans un bateau. En fait, dans un bateau, tu n'as pas de voile, tu n'as pas non plus de moteur et tu te laisses porter, en fait. Tu te laisses porter et tu es un peu à la dérive. Tu es dépendant vraiment des courants. Pour moi, c'est ça, la dérive. Et ce n'est pas forcément négatif. Je trouve que ce n'est pas... la dérive, c'est pas quelque chose de négatif en fait. Quand on se laisse, quand on veut contrôler les choses, c'est pas terrible. On
échappe. Part de hasard.
Ouais, voilà, on échappe pas non plus à. Tu sais, par exemple, forcer l'amour, ça sert à rien. Forcer l'admiration, ça sert à rien. Forcer un boulot ou je ne sais quoi.
Vous êtes un improvisateur.
Ouais, un petit peu quand même, un petit peu. Il m'est arrivé un truc quand j'étais gamin, enfin quand j'étais gamin, quand je venais en France. Ailleurs. Là, tu sais, en voiture, c'est bizarre parce que je parle jamais rebeu, mais quand je suis en voiture, je peux pas m'exprimer en français. Genre, tu vois, non, je suis. Tu vois, genre, dégage. Non, qu'est-ce que je voulais te dire ? Ouais, il m'est arrivé un truc quand j'arrivais, quand je venais en France. Le policier donc, qui était à la PAF, il m'a pas laissé passer. Il m'a dit et le service national alors ? Je lui dis non, je ne l'ai pas fait encore, tout ça, parce que j'avais 17 ans, tu sais, il faut... Et il m'a dit non, tu passes pas. Alors que je me suis donné du mal pour avoir ce visa. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était le chemin de croix pour arriver à avoir tous les papiers réunis. Il fallait absolument que je parte. Il m'a dit non, tu ne vas pas y aller.
Là, vous avez chanté.
Non, même pas. Non, il y a un truc qui est arrivé. Mais vraiment incroyable, tu sais, quand je le raconte, je suis sûr qu'il y a des personnes, ils m'ont pris pour un mytho. Et moi, je voyais les gens monter comme ça dans l'avion et moi, j'étais dégoûté, tu vois, je pleurais même. Et il y a eu un coup de vent avec les réacteurs, il y a eu un espèce de coup de vent. Il y a un oiseau qui est rentré, il est venu, il a tourné, et il est venu là, quoi, en fait, sur mon épaule. Il n'a pas su où se poser, il s'est posé sur moi. Et là, le policier, il a vu ça, et ils se sont regardés, lui et ses potes. Il m'a dit... Allez, dégage, t'as de la chance, vas-y.
Tu vois ?
Ouais. Il m'a dit, t'as de la chance. C'est comme s'il a flippé, en fait. Il a un peu flippé, il s'est dit, bon...
Ce mec, il est magique.
Ouais, tu sais, derwish, nous, en Algérie, on dit derwish. Qui n'est pas voyant, mais qui a une espèce de pouvoir, tu sais, un truc magique comme ça. Et donc, on n'ose pas trop les toucher, les derwish, tu vois. Et je me souviens de l'hôtesse Deller, qui me disait, allez, cours, tu vois. Et je courais comme ça vers les escaliers, j'étais le dernier, quoi. J'avais le cœur serré, tu vois, un truc très serré. Ouais. Je savais que je quittais
quelque chose.
Que je quittais l'Algérie. Puis je me rappelle, j'ai regardé le soleil. Et puis, cet oiseau qui s'est rebarré derrière. Mais je regardais le soleil et tout. Et puis, je me suis dit, tu vois, ça va me manquer, ce soleil et tout, quoi, tu vois. Puis c'était en décembre. Du coup, je suis arrivé en décembre. Il faisait un froid comme j'avais jamais connu. J'ai eu peur.
Quand, par exemple, on dit de vous, Sofiane Saïdi, que vous êtes l'héritier de Rachita, par exemple, quand vous reprenez le Couscous Clan avec Rodolphe Burger et que, finalement, vous endossez le rôle de Rachita, comment vous le vivez, ce truc-là ? Comme si vous étiez le nouveau Rachid.
Moi, je n'ai vraiment pas cette prétention de le remplacer et tout, parce que son... En arabe, on dit « mouchoir al-fenni », un mouchoir. Tu vois, le mouchoir, un mouchoir. Le mouchoir, mais le mouchoir, c'est le comment dire, la destinée musicale. Je n'ai pas le terme exact. Bref, je pense que lui, il a fait son truc vraiment d'une certaine façon. Et moi, je le fais aussi à ma manière. Attends, il ne faut pas qu'on rate la sortie. Porte-maillot, attends. Moi, ça me touche énormément que, par exemple, Rodolphe Burger, il m'a convié à jouer le Couscous Clan parce qu'il voulait continuer ce truc-là avec, avec l'équipe de Rachid et tout. Et ça leur fait... Je pense vraiment que l'équipe, le Couscous Clan, c'est les musiciens de Rachid et tout, c'était comme une sorte de thérapie pour eux parce que très vite, après le décès de Rachid, on a joué, quoi. Moi, ça m'a... Évidemment, ça m'a vraiment flatté, ça m'a touché de faire ça. Et en même temps, c'est une grosse responsabilité de... Tu vois, de se retrouver quand même à chanter les morceaux de Rachid.
Qu'est-ce
que vous allez faire alors maintenant, Rachita ?
Moi, je branque. Évidemment que je suis avec Rodolphe Burger à la dérive sur Radio Nova, surtout sur Radio Nova.
C'est quoi ce Couscous Clan, Rodolphe Burger ?
Ça a démarré par des petits concerts ensemble dans des bars algériens de Nanterre. Des musiciens de Rachid, des musiciens à moi.
Vous nous jouez ce que vous voulez.
مرة نفكا كان الوريد زيتي الفيرسيون كوسكوس كلان مي لا فيي فو غونفلي لي بوا شيش باسكو رودوف دو طوز ان طون اي سون فيش كونت اون غونفل اون غونفل لي بوا شيش.
Y a pas que les pois chiches qu'il faut gonfler. Les muscles aussi, il faut s'en occuper. Hey sugar, take a walk on the WhatsApp.
Regarde, le Apollo.
Sporting Club, c'est ouvert. Elle s'appelle Aurore.
Ouais, ouais, je vais me garer ici.
Bonjour, vous êtes Aurore.
Ouais, c'est Aurélie. Ouais. Oh là là, enchantée, hein. Ça va? Ouais. Bienvenue. Hein.
Merci, hein. Vous avez réussi à nous ouvrir.
Ouais, en fait, c'est juste que j'ai terminé l'entraînement de boxe. Du coup, ouais, bienvenue à l'Apollo Sport donc, du 17e.
Bienvenue à La Dérive sur Radio Nova.
Ouais, j'aime beaucoup cette émission et on aime beaucoup dériver avec Sofiane. Ça fait partie de notre amitié. Et donc, bah, je vais vous présenter l'exposition qui est au sous-sol, dans la salle des sacs. Je suis rouge écarlate.
Donc en fait là, on est à Apollo, donc hein,
c'est la nouvelle salle, ouais, où il y a l'exposition, ouais, de boxe. Bah, j'étais en train de lui expliquer. Peut-être avant de te montrer l'expo, on allait faire un petit combat tous les deux. Ah, tout, ouais, le temps que je te saoule avec ça.
Ouais, si, on se fait un petit combat.
Un petit combat.
Ouais, un petit combat.
Franchement, j'ai pas prévu de me faire casser la gueule, tu vois. Mais j'adore, hein, le lieu.
Mais il est beau, ce club.
Ah ouais, moi j'adore cette ambiance.
Salut. T'as des petites mains ou t'as des grandes mains?
J'ai des petites mains.
J'aimais beaucoup les images de boxe. J'étais fascinée par, tu vois, l'univers chorégraphique et esthétique. C'était avant tout pour les images. Après, je m'y suis mise.
Donc, on est face au sac. On va faire quoi ? Des directs ?
Alors, la boxe anglaise, c'est juste avec les bras. Et par contre, la boxe française, c'est pied-point, effectivement.
Moi, j'aime bien pied-point.
Donc, toi, tu veux faire de la française ?
De la française.
OK. Un direct du bras avant. OK. Et après, un fouetté comme ça avec ta jambe.
Ah ouais! Ah ouais, non, j'ai pas prévu ça!
Attends.
Alors attends,
vas-y!
C'est génial! Bam! Bam!
Voilà! Fouetté!
J'ai aucune force, y'a rien, c'est mou!
Alors c'est parce que normalement c'est pas ton bras fort et t'es plus fort de ce bras-là! Et maintenant tu peux faire l'enchaînement des deux, c'est-à-dire tu fais.
bien, ouais.
Est-ce qu'il faut penser à quelqu'un qu'on n'aime pas ?
Tu peux penser à tout ce qui te rend, ce qui te met en colère, tout ce qui te passe par la tête, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, si tu es hanté par beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de présence, et en général, en tant qu'artiste, on a beaucoup de fantômes qui nous accompagnent. Moi, je trouve que c'est plutôt, c'est assez thérapeutique et ça permet de mieux affronter ses émotions et d'être
délesté aussi. Un peu.
Ouais.
Il en
aura fallu que Radio Nouvelle vienne pour que je te vois boxer quand même. C'est extraordinaire.
Comment il s'en sort?
Avec beaucoup de singularité, j'ai envie de dire, qui n'a son propre style. Bon, je te montre les photos ou pas?
Ouais.
Allez. En fait, c'est les coachs.
Leurs shorts, ils sont fascinants, je trouve. À chaque fois, si t'as vu les couleurs.
Je te dis, c'est vraiment en plein cœur de la jungle, donc t'es au milieu un peu de la nature. C'est très doux, c'est des moments justement. Tu vois, il y a même un des boxeurs qui est en train de faire de la musique.
Il y en a qui fait de la guitare.
Voilà, il y en a qui fait de la guitare. Il y a un des petits qui est en costume de Spider-Man qui est en train de s'entraîner au milieu des sacs.
Moi, je pense que la boxe soigne. Le chant soigne.
Ah, je pense effectivement que c'est hyper salvateur et pour Sofiane, à 300%.
Et des fois, j'ai l'impression vraiment d'aller à la corrida, tu sais, j'ai l'impression d'être un taureau et je rentre. Et vraiment, j'ai ce truc-là. Et en fait, à chaque fois, par exemple, j'ai jamais le trac. Mes collègues, ils me disent, des fois, je me retrouve face à 5, 10 000 personnes, j'ai pas le trac. Et je me dis, bon, Sofiane, quand même, un peu de trac, quand même. Tu vois? Et ben non. Mais par contre, ce qui me sauve à chaque fois, enfin, quand je monte sur scène, c'est de me sentir un peu, vraiment, me mettre dans la peau d'un taureau. Et tu vois, et je rentre et je me dis que. Si je baisse la garde ou je
en
suis
fait,
pas
c'est
vrai.
C'est comme sur un ring, tu peux pas faire semblant.
Voilà, exactement.
Et toi, un artiste sur la scène, c'est comme sur la moindre inattention, les gens le sentent et le voient. Et t'as ta cron.
C'est l'endroit où vous êtes le plus heureux sur ce ring scène.
Il y a deux endroits où je suis franchement le plus heureux, c'est sur scène et c'est aussi dans la cour de notre maison à Sidi Bel Abbès.
À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain. L'album de Sofiane Saïdi et le groupe Mazalda s'appelle El Njoum, ça veut dire les étoiles. Et ils seront au New Morning en concert le 24 novembre. Et si vous voulez boxer en regardant des belles photos, foncez à l'exposition d'Aurore Vino à l'Apollo Sporting Club dans le 17e à Paris. À la dérive, c'est Aurélie Suez au micro, Bertrand Chameton aux manettes et en podcast sur nova.fr. À dimanche prochain et d'ici là, bonne balade à tous sur Nova.